Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
C'est un mardi où nous allons aborder les effets des tempêtes. Bonjour.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors on va parler surtout de prise en charge. Alors déjà les bases, à partir de quand on considère que le vent est puissant ou que ça souffle fort?
Alors, on va parler plutôt de tempête que de vent puissant. À un certain moment, où pendant longtemps, les assureurs ont considéré qu'un vent supérieur à 100 km/h était un vent tempétueux qui ouvrait donc droit à la garantie tempête. Et puis, on a considéré que ce n'était pas forcément pertinent. En revanche, on a cherché à garantir les dommages causés à des bâtiments de bonne construction dans un rayon de X kilomètres, en règle générale 5 kilomètres. Et là, on dit, voilà, s'il y a des dommages dus au vent dans un à des bâtiments de bonne construction dans un rayon de X kilomètres, la garantie tempête est mobilisable.
Qui donne ce feu vert en disant là c'est une tempête ou là c'est juste un simple vent?
Alors, on consulte la météo, le météo consulte notamment, et à partir de là, on considère qu'il y a tempête ou pas. Vous savez, c'est souvent évident.
On s'en rend compte assez rapidement une fois qu'on est dessous. Vous nous avez parlé de 100 km. Est-ce que c'est 100 km partout en France ou est-ce qu'il y a en fonction des régions un petit peu des spécificités? On sait que en Bretagne, par hasard, il y a beaucoup de vent.
Alors moi, je vous ai parlé de 100 km. Je vous ai dit surtout qu'on ne l'utilisait plus tellement, ce critère-là. Alors 100 km/h, en fait, c'est donc pas le critère utilisé, mais le critère, il est à l'intérieur des conditions générales.
Les
fameuses conditions générale. Quand on ne lit pas son contrat d'assurance, on s'expose ou qu'on n'est pas bien conseillé, on s'expose à des surprises.
On en revient à la première chronique.
rien ne prouve que la définition chez Allianz est la même que qu'à la Maif, chez AXA, etc. Bon, donc, mais en revanche, elles sont souvent proches de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des bâtiments de bonne construction endommagés dans un rayon de X kilomètres.
Alors, c'est quelle assurance qui prend en charge les effets de la tempête? Alors, est-ce que c'est l'assurance habitation ou est-ce qu'il y a une assurance particulière, une attestation particulière?
Non, c'est l'assurance habitation pour tout un chacun. C'est le cas le plus général, c'est l'assurance habitation. Et c'est une garantie qui est systématiquement incluse à partir du moment où il y a une garantie incendie. Or, dans un contrat d'habitation, la garantie première, c'est la garantie incendie. Donc, on peut dire que lorsqu'il y a une tempête, c'est bien la garantie de votre contrat multirisque habitation qui va jouer au titre de l'incendie.
Alors au moment où on a une grosse tempête, on subit une grosse tempête, on a au hasard un portail qui se retrouve chez le voisin. Oui. Comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes une fois que c'est arrivé? Parce qu'on est souvent un petit peu stressé, un petit peu sous la panique.
Oui, bien sûr. Alors là, dans le cas du portail, comme dans le cas d'un arbre d'ailleurs, qui irait chez le voisin, vous avez les dommages causés et les dommages subis. Les dommages subis pour vous, c'est un portail. Ce portail, il est contractuellement garanti ou pas, mais quand même très souvent, il est garanti contre les effets du vent. Ceci étant, on peut considérer que certains contrats ne le garantiraient pas. Ça peut arriver. Bon, ça, c'est les dommages subis. Et donc, il faut faire une déclaration le plus rapidement possible à son assureur, faire constater, prendre des photos, voilà. Et puis, il y a les dommages causés, c'est-à-dire que votre portail est chez le voisin. Et là, c'est plus compliqué parce que vous avez une responsabilité, c'est votre portail, il est parti. Maintenant, à partir d'un certain degré de vent, une certaine puissance de vent, on va considérer, et là tout le monde va considérer, qu'on est dans un cas de force majeure. Et ce cas de force majeure va vous exonérer, vous, de responsabilité. Vous allez bien être obligé d'aller reprendre votre portail, de le ramener chez vous. Mais en revanche, si votre portail a causé un dommage à votre voisin, l'événement était extérieur, imprévisible, irrésistible. Par conséquent, votre responsabilité n'est pas engagée. C'est compliqué à expliquer, ça.
C'est des choses qu'on ne peut pas les prévoir, au final.
Voilà, c'est un cas de force majeure et c'est irrésistible. Vous n'y pouvez rien.
Alors, lorsqu'on a subi cette sorte de dégâts, quels sont les documents qu'on doit fournir pour pouvoir faire rentrer dans cette étape de tempête, faire rentrer les dégâts et tout ce que ça a causé dans la catégorie tempête?
Alors,
est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas forcément?
Pour que ce soit une tempête, le relevé météo va être intéressant à consulter, et notamment les vitesses de rafales. On voit des rafales qui sont très différentes à 9h du matin qu'à 8h du matin, et on voit c'est ce genre de choses-là. Maintenant, encore une fois, quand il y a tempête, on s'en rend finalement assez rapidement compte, d'abord parce qu'il y a beaucoup de dommages autour de soi, ce qui fait d'ailleurs que lorsque on doit présenter une réclamation à son assureur, si la tempête est considérable, comme je vous rappelle les grandes tempêtes de 99, plus personne ne va sur le terrain pour faire une expertise. On va commencer à payer les petits dommages ou les dommages moyens sans expertise. Ce sont des procédures d'urgence. Il faut bien réagir et on ne peut pas laisser. Vous avez des milliers et des milliers de personnes qui sont sinistrées. Voilà, vous n'allez pas tout vérifier, vous allez faire confiance.
On ne peut pas mettre une personne à chaque dégât, sur chaque territoire, sur chaque maison.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des cas qui ne sont pas possibles dans la garantie tempête ou dans l'assurance tempête, on va appeler ça comme ça ?
Alors, j'ai un exemple en tête. Il est très compliqué, par exemple, d'assurer un caveau dans un cimetière. On peut l'assurer en responsabilité civile, il peut causer un dommage, je ne vois pas trop bien lequel, mais on peut imaginer ça. Et d'ailleurs, ça se fait, on assure en responsabilité civile les caveaux. En revanche, en dommage, on ne les assure pas. Et lorsque vous avez une grande tempête, en 99 par exemple, j'ai parfaitement le souvenir que des cimetières ont été dévastés du simple fait des arbres qui, déracinés, ont déstabilisé des caveaux, faisant des dommages à la fois considérables et tristes. Et les collectivités propriétaires des cimetières ont été mises en cause et elles ont décliné leurs garanties, décliné leurs responsabilités dans la mesure où on était devant un cas de force majeure. Il n'y avait aucun défaut d'entretien normal qui est un critère administratif. Et par conséquent, les caveaux sont restés à la charge des propriétaires des caveaux, bon, qui ont eu des aides, si vous voulez. Mais je me souviens que la préfecture avait été absolument ahurie lorsqu'on lui avait indiqué que ça ne se ferait pas, quoi.
Donc il y a certains cas extrêmes, mais qui arrivent très peu au final aux particuliers.
Oui, vous m'avez demandé un exemple, il est peut-être un peu particulier, mais il existe.
Mais vous en êtes bien sorti. Merci beaucoup, Jérôme Debardis, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.